Ce matin, on va dans Jean 14. La semaine dernière, on a fêté Pâques et puis j'avais parlé du fait que notre espoir à nous est vraiment dans cette vie, mais dans l'éternité. J'avais parlé du fait que Christ nous prépare une place et que notre espoir est vraiment là où il nous prépare une place dans la présence du Père. Bien, ce matin, dans Jean 14, Jésus prépare ses disciples. Parce que Jésus sait qu'ils vont entrer dans une période de trouble. Dans le contexte de Jean 14, écoutez, Jésus va être bientôt arrêté, bientôt enlevé par les Romains, bientôt crucifié. Les disciples ne comprendront plus rien à ce qui se passe, ne peuvent pas interpréter, ils n'ont pas de catégorie pour un Messie qui va être crucifié. Plus tard, ils vont comprendre tout ça, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas le comprendre. Et donc, Jésus va leur dire que vos cœurs ne se troublent point. Puis, dans cette section-là, cette portion-là qu'on commence dans l'Évangile de Jean, il va y avoir vraiment tout un temps où Jésus va prier pour ses disciples de l'époque, mais prier pour ses futurs disciples, ceux qui viendront par la suite, après la mort, la résurrection, ceux qui suivront nous, en fait. Et donc, dans ces prières-là, on voit que tout ce cœur-là que Jésus a pour ses disciples, c'est pas simplement pour les 12, c'est pas simplement pour les 150, c'est pas simplement pour les 500 disciples peut-être qu'il y avait à l'époque, mais c'est pour les millions de personnes qui vont croire en Jésus-Christ à travers les siècles qui vont suivre. Et donc, c'est pour nous aussi. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Cette exhortation-là de Jésus est tellement à propos pour les temps que nous vivons. Nous vivons des temps de trouble, peut-être du jamais vu même dans l'histoire de l'humanité, dans le sens qu'il y a une dimension tellement planétaire à toute la pandémie, à la gestion de la pandémie, tout ça, c'est vraiment surprenant, troublant de bien des manières. Peur d'attraper le COVID, peur d'en mourir, tous les bouleversements sociétals qui viennent avec ça. Mais oubliez le COVID un instant, on vit une période de trouble. On vit une période de trouble parce que les gens ont toutes sortes de craintes. Je veux dire, avant, c'était le climat, réchauffement climatique, surpopulation, toutes sortes de grandes questions qui sont là, qui troublent les hommes. Je pense que ce passage-là est tellement approprié pour nos cœurs aujourd'hui. Et donc, si ton cœur est troublé, depuis quelque temps. Si ton cœur est agité, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. On va aller dans la prière, on va écouter la lecture de ce beau passage-là, puis ensuite on va plonger dans le passage. Seigneur Jésus, on vient à toi parce que tu es Dieu le Fils. Tu nous dis dans ce passage que si on demande quelque chose en ton nom, tu vas le faire. Bien, ma prière est très simple ce matin. Je te demande de nous parler. On a besoin, Seigneur, à travers ta parole, à travers l'œuvre de ton esprit en nous, de t'entendre, toi. On a besoin que tu apaises nos cœurs pour que notre esprit soit disponible à recevoir ton message pour nous personnellement, Seigneur, individuellement, dans nos foyers, ici au bâtiment, ceux qui sont de l'Église, ceux qui ne sont pas de l'Église. Seigneur, je te demande d'exercer vraiment un ministère de grâce et de venir nous parler ce matin, et que très personnellement, très individuellement, on puisse, Seigneur, d'une manière surnaturelle, comme toi tu sais le faire, entendre ta voix parler à nos cœurs. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.
Alors, le passage biblique de ce matin est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 14, 1 à 14. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. »
Essayez d'imaginer un instant le trouble dans le cœur des disciples, ce qu'ils vont traverser. Pierre est confiant juste à la fin du chapitre 13, Pierre est là, puis lui, moi, je vais être fidèle, je vais persévérer, jamais je vais te trahir. Puis Jésus lui dit, non, tu vas me trahir, tu vas m'abandonner. Jésus est extrêmement conscient à quel point ils n'auront plus de catégorie, ils n'auront plus de référence pour comprendre ce qui se passe. Ces hommes-là, ces femmes-là, ont vu les miracles que Jésus a faits, ont entendu Jésus enseigner. Personne ne peut lui résister. Ce qu'il veut faire, il l'accomplit. Je veux dire, il peut dire à la tempête de s'arrêter et elle s'arrête. Qui pourrait arrêter la progression du roi des Juifs qui rentre à Jérusalem? Maintenant, Jésus sait, lui, qu'il va être arrêté, il s'en va à la croix, il s'en va mourir sur la croix. Imaginez le trouble qui s'en vient dans le cœur de ses disciples. Et puis, les chrétiens vont continuer à avoir des cœurs troublés à travers les décennies qui vont suivre, à travers même les siècles qui vont suivre. Souvent, vont faire face à de la résistance, à l'époque dans l'Empire romain, parfois persécutés, encore aujourd'hui. Donc, la vie chrétienne est une vie où il y a toujours cette possibilité d'avoir le cœur troublé, d'avoir le cœur bouleversé. Le fait de croire en Dieu ne fait pas qu'on ne vit plus jamais de troubles dans nos cœurs. Alors, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Croire en Dieu, c'est croire en Jésus. La paix de mon cœur et ma foi pour de grandes œuvres en dépendent. Je répète ça. Croire en Dieu, c'est croire en Jésus. Et la paix de mon cœur et ma foi pour de grandes œuvres en dépendent. Croire en Dieu, c'est croire en Jésus. Quel beau verset, pareil. Il me semble qu'il se retient tellement bien. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous pouvez partir juste avec ça ce matin, puis juste repasser ça dans votre esprit cette semaine, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Afin de vivre la paix, afin d'être paisible. Il n'y a personne, il n'y a rien dans ce monde qui peut nous apporter la paix que nous procure la foi en Dieu, la foi en Jésus. Rien, nulle part, personne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je ne sais pas si ton cœur est troublé. Je vous ai partagé à l'Église. Mon cœur a été profondément troublé en 2020 à travers toute la COVID, mais aussi tout ce qui va avec la gestion, puis de comprendre, OK, toutes les mesures qu'on est en train de prendre, où est-ce qu'on s'en va, puis quand est-ce que ça va finir, puis hein, on a des projets, puis qu'est-ce qui arrive avec les projets, puis on essaie de prendre soin de l'Église, puis OK, on peut se réunir, on ne peut pas se réunir. Puis, donc, mon cœur a été régulièrement agité en 2020. En 2020, puis 2021, déjà, ça commence. Hein? Puis là, on suit. On s'en va aux actualités, puis on suit les nouvelles. Une nouvelle annonce, qu'est-ce qui va se passer? OK, on peut faire ça, on ne peut plus faire ci. Puis là, il y a des gens, oh, est-ce que les hôpitaux vont être saturés? Qu'est-ce qui va se passer? C'est troublant. D'autant plus que les médias, bien évidemment, à quelque part, gardent notre attention avec ça. On a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Et donc, c'est troublant pour nos cœurs. Alors, je ne sais pas comment ton cœur est, si ton cœur est troublé, si ton cœur est agité, si tu dors bien de ce temps-ci ou si tu dors mal. Peut-être que c'est la COVID, peut-être que c'est ton travail, peut-être que c'est ton avenir, peut-être que c'est ta santé, peut-être que c'est ta famille, peut-être que c'est ton couple, peut-être que c'est pas ton couple, ton célibat, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui trouble ton cœur? Comment est ton cœur? Puis, comme je disais tout à l'heure en introduction, on vit une époque de trouble. Je me préparais pour ce message, puis je pensais aux jeunes générations qui sont constamment alimentées avec une perspective d'avenir sombre. On entend, OK, là, il nous reste 6 ans, il nous reste 9 ans, il nous reste 12 ans. Si on fait rien, tout est perdu. On n'a pas d'avenir sur la Terre. Surpopulation. Là, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je suis en train d'écouter une scientifique, elle disait, je suis pas sûr que ça va être ça le problème. Je pense que d'ici 2050, excusez-moi, je m'en vais dans des détails de biologie. On est en train d'observer, les scientifiques observent que les hommes, soit par leur sédentarité, soit parce qu'il y a trop de plastique dans ce qu'on consomme, ce qu'on touche, mais le taux de fertilité chez les hommes est en train de diminuer. Puis on pense que d'ici 2050, un peu partout sur la Terre, 50% des hommes ne seront peut-être plus fertiles. Fait que c'est-tu surpopulation ou on est en voie de disparaître? OK, finalement, on va aller sur Mars. Mais tout ça, c'est troublant. Fait qu'honnêtement, je pensais aux jeunes particulièrement lorsque j'étais en train de préparer ça. Si tu as 13 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as été élevé à l'école avec une appréhension pour ton avenir absolument extraordinaire. Si ton cœur n'est pas troublé, c'est que tu joues juste à des jeux vidéo puis que tu n'es pas connecté dans la réalité parce que tout le monde te dit que tu devrais être troublé. Tout le monde te dit que tu devrais être inquiet. Bien, voici ce que Jésus a à dire. Que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et si tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans, la plus belle chose que tu peux faire pour la paix de ton cœur, c'est de croire en Dieu et de croire en Jésus. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour la paix de ton cœur parce que les circonstances vont être régulièrement troublantes. Hey, retenez ça, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Puis une des choses qui sort très, très fort dans le passage, juste dans cette phrase-là, les Juifs de l'époque comprenaient bien ce que Jésus était en train de faire lorsqu'il dit « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Vous avez compris que ce n'est pas Yannick. Hein? Croyez pas dans un pasteur de grâce, faites pas ça. Laissez pas votre confiance dans un pasteur. Le « moi », c'est Jésus. Et les Juifs de l'époque comprenaient très bien que Jésus est en train de dire, si tu crois en moi, tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu crois en moi. Et plus on approche de la croix, plus cette affirmation-là de Jésus devient limpide pour les autorités religieuses de l'époque qui disent, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de te faire l'égal du Père, croire en Dieu, croire en toi, le même combat, la même foi, la même croyance, la même personne. Oui, l'évangile de Jean, à travers l'évangile de Jean, Jésus se révèle comme Dieu le Fils. Lorsque tu crois en Jésus, tu ne crois pas dans une des religions possibles dans laquelle tu peux croire. Quand tu crois en Jésus, tu ne crois pas dans un des sauveurs possibles. Tu crois en celui qui révèle parfaitement le Père. Jésus leur dit... Je m'en vais vous préparer une place, je reviens sur ça. Puis là, Thomas commence à dire, « Ouais, mais où est-ce que tu t'en vas? On ne le sait pas. » Puis là, il dit, « Ben oui, vous le savez, puisque c'est moi le chemin. » Jésus dit dans Jean 14, 6, un des versets les plus précieux pour comprendre tout le cœur du Nouveau Testament et même de toute la Bible, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus est en train de dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez le Père. Si tu me connais moi, tu connais Dieu. Si tu connais Jésus-Christ, tu connais Dieu. Philippe troublé, ne comprend pas. Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. » Jésus répond, « Ça fait tellement longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu encore. » Celui qui connaît Jésus connaît Dieu, parce que Jésus, c'est Dieu le Fils fait homme, qui vient nous révéler la personne de Dieu. Puis alors que je méditais sur ce passage-là au cours des dernières semaines, j'étais frappé. C'est comme si Philippe est en train de dire, « Écoute, Seigneur, je ne veux pas t'insulter, je ne veux pas te manquer de respect, je veux dire, t'es too much. Écoute, on te suit, c'est pas pour rien, tu fais des miracles, t'enseignes la parole comme personne ne l'a jamais enseigné. Personne n'a jamais enseigné comme toi, on le reconnaît. T'es le roi des Juifs, t'es le Messie. Tout ça, Seigneur, t'es vraiment, vraiment, vraiment hot. Maintenant, t'es quand même un homme. T'es quand même un être humain. Fait que, tu sais, si tu pouvais nous montrer le Père, ça serait vraiment cool parce que Dieu est invisible, puis ça serait extraordinaire. C'est comme si Philippe est en train de dire, « Écoute, si tu veux nous révéler le Père, je m'attends à ce que le ciel s'ouvre, qu'il y ait une chorale qui part, les spots sortent, les anges commencent à descendre. » Ésaïe, rappelez-vous le pasteur Michel, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Ésaïe 6 la semaine dernière. « Je m'attends à une vision semblable. » C'est ça qui se passe dans l'Ancien Testament lorsque Dieu apparaît. C'est comme, « Oh! » Mais là, je veux dire, toi, tu es là, puis on mange avec toi, puis on te voit dormir, puis des fois, il faut comme te réveiller parce que tu fais des siestes dans un bateau, puis tu sais, c'est pas mal ordinaire quand même. Tu fais des miracles. Tu es extraordinaire, tu enseignes de manière extraordinaire, mais tu es très humain après tout. C'est vraiment intéressant, hein? C'est comme si l'humanité de Jésus rendait impossible, aveugle à Philippe de voir sa divinité. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis pourtant, c'est Dieu le Fils. Il est entièrement Dieu. Il n'a pas renoncé à sa divinité parce qu'il est devenu un être humain. Et dans la simplicité de ce qui se passe là, le Père est parfaitement révélé. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu. Si tu connais Christ, il n'y a pas plus à révéler sur Dieu aux hommes. Il est le reflet parfait de la personne de Dieu. Il est Dieu le Fils. Il est la révélation du Père. Quand tu connais Dieu. Fait que je sais que Dieu, ça peut sembler abstrait pour toi si tu n'es pas familier avec le Nouveau Testament, ou même si tu es chrétien et tu viens à l'Église depuis des années, quand tu penses à Dieu, tu te dis, oh, mais tu sais, il est invisible, c'est quand même abstrait, il est immense, il a créé l'univers, il est souverain, je ne peux pas y accéder. Ça, c'est faux. Oui, il est immense, mais tu peux lui accéder. Tu peux vraiment le connaître. Tu peux le connaître autant qu'il veut se faire connaître parce qu'il s'est parfaitement révélé à travers la personne de son Fils. Donc Jésus n'est pas simplement un autre messager qui nous vient de Dieu pour nous parler de Dieu. Lorsque je parle avec un ami qui est musulman, bien lorsque Mahomet a déterminé que les chrétiens avaient mal compris qui était Jésus, et puis ils ont dit « Non, c'est pas Dieu le Fils, c'est un grand prophète, c'est le plus grand des prophètes, il est plus grand que moi-même Mahomet. » C'est ça que Mahomet disait, qui enseignait. Jésus, c'est top, mais c'est pas Dieu fait homme, ça c'est un blasphème. Mais ça veut dire que Mahomet n'a jamais saisi qui était Jésus, n'a jamais connu Dieu. Je sais que ça peut sembler offensant ce que je te dis, mais il n'y a personne qui est comparable à Jésus. Jésus dit dans le passage, il dit, « Écoutez, si vous ne me croyez pas, croyez au moins les œuvres que j'ai faites. » Attendez, ils n'ont rien vu. Ils se préparent à aller mourir sur la croix, ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est une œuvre incroyable. Trouve-moi-en un autre qui a fait ça. Trouve-moi un prophète qui vient, vit sur la terre une vie parfaite. Sans reproche, tellement sans reproche que les Romains qui l'ont crucifié, le centurion est là puis il dit, une fois qu'il le voit mourir, il ne voit même pas ressusciter, il voit mourir sur la croix. Et simplement dans sa mort, il va déclarer, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il est incomparable. Trouvez-moi un autre prophète qui vient mourir sur la croix, ressuscité d'entre les morts pour le pardon de nos péchés. Je ne peux pas mettre Jésus dans une catégorie avec d'autres prophètes et d'autres religions. Il est la révélation de Dieu. Et donc, si pour toi, Dieu est intangible, Dieu est abstrait, apprends à connaître Jésus. Lis l'Évangile de Jean. Fais la lecture du livre avec nous, Dieu et l'Évangile. Tu vas voir qu'on va parler de Jésus mur à mur de son œuvre parce qu'il est la révélation de Dieu. Dieu n'est plus abstrait. Dieu n'est plus intangible depuis qu'il s'est révélé à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est ce qui amène Jésus à dire à Philippe, « Philippe, je suis avec toi depuis tellement longtemps puis tu ne me connais pas. Si vraiment tu me connaissais, tu connaîtrais le Père. Tu aurais compris. Tu aurais compris. » J'aime comment Tim Keller le résume. Il dit « Les premiers chrétiens ne croyaient pas parce qu'ils voulaient croire. Ils ne croyaient pas simplement parce que c'était une histoire inspirante. Ils ont cru parce que les preuves étaient si accablantes qu'ils ont été forcés de le croire malgré tout ce qu'ils croyaient auparavant. » Il faut comprendre que pour les Juifs de l'époque, croire en Jésus venait bouleverser toute ta compréhension de l'Ancien Testament. Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas de paradigme, il n'y avait pas de cadre pour Jésus. Il faisait éclater tous les cadres, puis il nous ouvrait des lumières sur l'Ancien Testament comme personne ne l'avait jamais compris. Si les premiers chrétiens sont devenus chrétiens et ont cru en lui, c'est parce qu'il n'y avait aucune autre foi qui faisait du sens, aucune autre explication logique et sensée, comme ce centurion qui est là, qui le voit mourir, puis qui dit... Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il n'y avait pas d'autre conclusion possible. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, croyez en moi? Bien, c'est croire que c'est Jésus le chemin. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est croire non seulement qu'il est la révélation parfaite du Père, mais qu'il est la seule voie possible pour aller au Père. Et je pense que lorsque Jésus dit ici, « Je m'en vais vous préparer une place », je pense qu'il est en train de parler de la croix. Je pense qu'il est en train de parler de sa mort et de sa résurrection. C'est ça que je crois. Parce que vraiment, c'est là qu'il nous prépare une place. Je veux dire, il n'est pas au ciel en train de te construire une maison, puis juste de liner comme il faut tes briques, puis il est en train de faire ça bien, bien droit. Puis tu sais, c'est long, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu, ça fait 2000 ans. Imagine, on va être une gang, ça en fait des maisons à construire. Non, il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Je m'en vais vous préparer une place, je m'en vais ouvrir une voie d'accès pour que des êtres pécheurs comme toi et moi puissions accéder au Dieu trois fois saint. Et quelle est cette voie? Quelle est cette voie de passage? C'est Jésus lui-même, c'est croire en lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, si tu veux vivre cette paix-là que des millions de chrétiens expérimentent depuis des siècles maintenant, faisant face à des épreuves comme les autres êtres humains, mais aussi à d'autres épreuves, toutes sortes de persécutions. En trouvant une paix qui surpasse toute intelligence, comme dit l'apôtre Paul, mais c'est en croyant en Dieu et c'est en croyant en Jésus qui est la manifestation parfaite de la personne de Dieu. C'est en croyant qu'il est la voie d'accès pour accéder au Père par sa mort à la croix, qu'il est notre vie par sa résurrection, qu'il est notre chemin, qu'il est notre chemin pour accéder au Père. Et donc, il est allé nous préparer une place, il est mort sur la croix. Et lorsque je vois un frère, une sœur qui décède de manière subie, je vis de la tristesse pour ceux qui le laissent derrière. Pas pour un ami qui est parti rejoindre le Seigneur. Certainement la tristesse de ne pas le voir là, mais la paix de savoir qu'il est auprès du Père, qu'il est auprès de mon Seigneur Jésus. Ma prière, c'est que tu crois en Jésus pour tout ce qu'il est. Pas seulement un bon conseiller, pas seulement un autre chef religieux, pas une autre option, pas un mythe, pas une histoire du passé. Et si à quelque part ça te travaille, tu es en cheminement, tu es en réflexion, moi je t'invite à lire l'évangile de Jean, je t'invite à lire les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, à fréquenter Jésus en lisant, on a le récit. Et Dieu va pouvoir te révéler qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que lorsqu'on place notre foi en lui, on a accès à une paix qui surpasse toute intelligence. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est quoi croire en Jésus? C'est croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est quelque chose de plus aussi. Et là, le défi vraiment, c'est si tu es chrétien, je pense qu'il y a tout un défi qui t'est réservé ici. C'est croire qu'il veut faire des œuvres immenses. Jésus dit au verset 12 à 14, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » La semaine dernière, j'ai parlé un peu du self-esteem, de l'image de soi. Remarquez que dans le passage, jamais Jésus nous demande de croire en nous-mêmes. Hein? Jésus ne te demande pas de croire en toi. Mais il te demande de croire en Dieu et de croire en lui. Et croire en lui, c'est croire qu'on va faire des œuvres plus grandes encore. Puis il dit dans le passage comment ça va se passer, c'est « parce que je m'en vais au Père ». Alors restez avec nous, la semaine prochaine, on va voir l'œuvre de l'Esprit. Une fois que Christ s'en va au Père, il va envoyer un autre Consolateur, le Saint-Esprit. On en parle davantage la semaine prochaine, mais il nous a donné son Esprit. Et donc, nous sommes habités de l'Esprit de Dieu et sa puissance est en nous. Pour faire des œuvres plus grandes. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Si ta réponse c'est oui, ça veut dire que tu crois qu'il répond à tes prières. Ça veut dire que tu crois qu'il veut faire des œuvres grandes à travers toi. Et moi, je te suggère que si tu as de la difficulté à le croire, c'est parce que tu penses que tu dois croire en toi. Moi, je vous avoue que si je dois croire en moi pour faire des œuvres extraordinaires, j'ai 50 ans, je ne suis plus là. Là. Tu sais, un petit peu de lucidité qui est venue avec le temps, puis je ne suis plus là. Là. Fait que si je dois croire en moi pour faire des choses extraordinaires, non, c'est assez limité. Je vais faire de mon mieux à tous les jours, mais par moi-même, non, je ne suis plus là. Maintenant, il dit, ceux qui croient en moi, celui qui croit en moi va faire des œuvres plus grandes que les miennes. De quoi il parle? Je veux dire, les premiers disciples n'ont pas arrêté beaucoup de tempêtes, se sont pas mis à marcher sur les eaux comme une tonne, tu sais. Construit plus de ponts. Il y a des ponts pour les non-chrétiens, puis il n'y a pas de pont pour les chrétiens, parce que nous, ben, on traverse le fleuve en marchant, tu sais. Non! Dans Jean, les miracles, c'est vraiment intéressant, c'est une particularité de l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, le mot grec qui est utilisé pour les miracles, régulièrement, c'est un mot qui veut dire ce sont des signes. C'est des signes pour nous révéler qui est la personne de Jésus. Et donc, oui, on voit au début dans les Actes, tout ça, plusieurs miracles. Puis tous les chrétiens probablement pourront vous raconter un miracle qu'ils ont vu en réponse à des prières. Bien sûr, j'en vois, mais si c'était vraiment ça dont il était question ici, c'est assez parsemé quand même dans l'histoire de l'Église, tout ça. Mais quelle est l'œuvre plus grande qu'on est appelé à faire? On est appelé à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. On est appelé à annoncer l'Évangile pour faire des disciples de Christ. Et chaque conversion, chaque nouvelle naissance, chaque fois qu'un individu place sa foi en Jésus et que son cœur arrête d'être troublé par les troubles de ce monde, mais place sa foi vraiment en Jésus-Christ, c'est un véritable miracle qui a une portée éternelle parce que cette personne-là entre dans le royaume de Dieu. Elle fait partie de ces personnes pour qui Christ a préparé une place. Mais l'Église est appelée aussi à faire de ces œuvres que Jésus faisait, d'aller aimer celui qui est rejeté, celui qui est abandonné. Son message, ce n'était pas simplement « Je suis le Sauveur ». Il incarnait parfaitement la personne de Dieu. Et l'Église est appelée à faire ça par la puissance de l'Esprit. Nous sommes appelés comme chrétiens à être une incarnation visible de l'amour de Jésus pour les rejetés, de l'amour de Jésus pour les démunis, de l'amour de Jésus pour ceux qui sont méprisés, d'une version de la foi, de la spiritualité qui est sans hypocrisie, sans prétention. Et Dieu sait que l'Église n'est pas parfaite, mais c'est notre appel. Et donc, on est appelé à se repentir perpétuellement de tous ces moments où on reflète tellement pas bien la personne de Jésus. Puis en même temps, on est appelé à refléter la personne de Christ. Et l'Église le fait depuis des siècles. Depuis des siècles, l'histoire de l'Église est très belle malgré toutes ses horreurs puis tous ses péchés. Elle est extraordinaire. Éric nous a partagé vendredi soir dernier, le pasteur Éric Ricard, combien, lorsqu'il est arrivé dans une église, il était comme troublé par l'amour qu'il y avait là. Il ne comprenait pas. Ils sont comme, moi je consomme quelque chose, mais eux autres d'autres choses, il faut croire. J'ai vécu la même expérience. Moi, j'ai commencé à fréquenter cette église, j'avais peut-être 6-7 ans, mais pendant des années, je ne venais plus vraiment à l'église, je venais peut-être une fois par année, une fois par 2 ans, je n'étais pas chrétien. Et chaque fois que je venais, je venais en me disant, écoute, c'est sûr qu'ils vont me dire, ouais, tu viens pas souvent, une fois par année. Puis à chaque fois, j'étais comme confondu, ils me donnaient la main, puis là, j'avais envie de fondre parce qu'il y avait comme trop d'amour dans leur regard, trop de joie, tu sais, c'est comme, voyons, sérieux. On est appelé à ça, les amis. Notre vision comme Église, c'est d'être émerveillé par l'Évangile, par la personne de Jésus, au service de la communauté. C'est ça notre appel. C'est ça l'appel que Jésus nous donne ici. On est appelé à prêcher Christ pour voir des miracles de conversion et en faisant cela, à être vraiment une manifestation tangible de l'amour de Dieu. Quand Jésus dit à Philippe, « Philippe, tu me vois puis tu n'as pas vu le Père? » Bien, je devrais pouvoir dire à des gens, si tu vois ma vie, à quelque part, tu vois Christ. Et régulièrement, par la grâce de Dieu, des gens vont nous dire, vous avez quelque chose de particulier. Comme je vous ai dit, ce n'est pas que je crois en moi, c'est que je crois en Jésus. Ce n'est pas moi qui est particulier, c'est l'œuvre de Christ en moi, en toi. Et j'espère que tu as cette foi-là. Si tu ne crois pas cela, c'est parce que tu places ta foi en toi puis tu fais bien de douter. Mais tu ne crois pas assez en Jésus. Et c'est la même chose avec les prières. Jésus dit, « Demandez quelque chose en mon nom et cela vous sera accordé. » Et je sais, tu as des requêtes de prière. Si tu es chrétien depuis des années, puis tu dis, « Le Seigneur ne répond pas à mes requêtes de prière. Je prie pour ça, je prie pour le salut de mes enfants, je prie pour ma famille, je prie pour telle situation, puis Dieu ne répond pas, puis c'est un combat. » Laisse-moi te suggérer que ta requête est juste trop petite peut-être. Parce que nulle part, je vois dans le Nouveau Testament, prier pour le salut de vos enfants seulement. Je vois même pas prier pour le salut de vos enfants. Je vois prier pour tous les hommes. Prier pour tous les hommes. Bien, commence à prier pour tous les hommes, pour tous les gens de Longueuil, pour tous les enfants des chrétiens de l'Église. Puis tu vas voir Dieu répondre à tes prières. Puis là, tu vas dire, ah, il y en a un qui vient de se convertir. Il y en a un autre qui vient de se convertir. Il y en a une qui vient d'accepter le Seigneur. Puis tu vas le prendre, puis tu vas te l'approprier, puis tu vas dire, le Seigneur sauve encore aujourd'hui. Il sauve des enfants de chrétiens. Il sauve des gens qui n'ont aucun background évangélique. Il sauve encore aujourd'hui. Ta prière est peut-être juste trop petite. Continue à prier pour ta famille. Continue à avoir des requêtes spécifiques, mais élargis ta prière. Parce que nous sommes appelés à prier pour l'œuvre de Dieu sur toute la terre. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais inviter les musiciens à prendre place. Je sais qu'il y a des gens qui sont, Ils partent avec ça, puis là, ils sont « OK, wow, tu sais, je vais aller louer le Seigneur. » Il y en a qui nous a apporté ça dans les Écritures. J'ai plein d'idées. Puis il y en a d'autres que faut que ce soit très concret. Hein, ça vous prend un call to action. OK, qu'est-ce que je fais avec ça, Yannick? Bien, j'aimerais que tu poses la question à Christ, à Jésus. Quelle est l'œuvre extraordinaire à laquelle Jésus t'appelle cette semaine? Quelle est l'œuvre extraordinaire à laquelle Jésus t'appelle cette semaine? Il y en a une. C'est laquelle? Quelque chose qui... Si tu avais à croire en toi, tu n'oserais pas le faire. Mais si tu croyais en Jésus, peut-être que tu oserais le faire. Donc, une œuvre. Envers quelqu'un, un geste, un collègue, quelqu'un à qui tu veux témoigner, un collègue que tu veux aller aider, une relation que tu veux chercher à réparer, une demande de pardon. Un geste surprenant comme Jésus en avait tellement. Une œuvre. Une requête. Quelle est la requête extraordinaire que Dieu t'appelle à lui adresser cette semaine? Au nom de Jésus. Une requête que tu n'oserais peut-être pas faire s'il fallait que tu croies en toi, mais que tu oserais vraiment faire si tu croyais en Jésus. Quelle est cette requête-là? Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. On va prier. Seigneur Jésus, on veut te bénir, t'adorer ce matin. On est dans Jean 14, on s'en va vers la croix, on s'en va vers la résurrection. Les choses vont devenir limpides, même pour les disciples. C'est tellement beau. On va être avec toi lorsque tu vas prier pour les disciples. On va voir la promesse de l'Esprit. Mais pour nous, Seigneur, tout ça est déjà accompli. Tout est accompli, Seigneur. Et tu nous as donné de connaître Dieu à travers ta personne, Jésus. Tu es la révélation de Dieu. Par toi, Seigneur Jésus, Dieu n'est plus abstrait et invisible pour moi. Il est concret, il m'est connu, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs et pour moi-même, lorsque nos cœurs sont troublés, parce que nos yeux sont fixés sur des choses de ce monde, au lieu d'être tournés vers toi. Parce que notre foi en toi défaille et que nos cœurs sont agités, Seigneur. Je te prie de ramener nos cœurs à toi, de ramener nos cœurs dans la louange, Seigneur, à célébrer ta gloire, à voir ta beauté, ta majesté, ta puissance, ta victoire sur la mort, sur le péché, ta résurrection. Seigneur, je te prie pour tous ceux d'entre mes frères et sœurs qui ne croient pas que tu veux faire à travers eux des œuvres extraordinaires, parce qu'ils regardent à eux-mêmes au lieu de regarder à toi. Tous ceux et celles qui ont arrêter de prier des prières extraordinaires parce que tu tardes à répondre comme ils le désirent, Seigneur. Viens leur donner de croire en toi, Jésus. Et je veux te prier enfin, Seigneur, pour ceux qui ont le cœur agité, le cœur troublé parce qu'ils ne te connaissent pas, Jésus-Christ. Ils n'ont pas encore saisi que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Je prie dans ta grâce, dans ta bonté, de venir te révéler à eux. À travers ces messages, à travers la parole, à travers un chrétien qui va s'asseoir avec eux, viens leur faire connaître ta personne, Jésus. Père, c'est dans le précieux et glorieux nom, tout puissant, de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.